Chapitre 4. La première nuit d'Onésime Coche, assassin. Au moment où Coche entra dans le café de la place du Trocadéro, le journaliste méridional demandait d'une voix de stentor « La générale !» et dédaigneux des vains efforts des gestes inutiles, abattait d'un revers de main les cartes sur le tapis en disant « Vous ne tenez pas à jouer, n'est-ce pas ?» Mais comme il prenait les soucoupes et les passait à son voisin de droite, il aperçut Coche et s'écria « Ah, des nouvelles ?»« Sensationnel !» fit Coche en s'asseyant sur la banquette. « Demandez du papier, de l'encre et écrivez, il y en a pour un instant. Vous arrangerez ça à votre façon. J'ai causé longuement avec le commissaire. Il m'a donné tous les renseignements que je voulais, sauf un cependant que j'ai omis de lui demander le nom de la victime. » « Oh, ça n'a pas d'importance. C'est un nommé Forget, un petit rentier qui habitait là depuis 3 ans. Pour de plus amples détails, nous n'aurons qu'à passer tout à l'heure au commissariat. » « Parfait, bien voilà. » Et il dicta sa conversation avec le commissaire, insistant sur les moindres détails, soulignant les intonations, précisant les hypothèses. Mais il se garda bien de mentionner sa visite dans la chambre du crime, la trace de pas et les invraisemblances qu'il avait relevées dans les déductions du magistrat. Cela était à lui seul. Au reste, nul n'aurait pu profiter de ces indications. Elles étaient sans valeur pour qui ne pouvait connaître le fond des choses. Tout en dictant, il examinait la salle d'un œil distrait. Au bout d'un moment, il s'aperçut qu'il était dans le café d'où il avait téléphoné la veille. Par un hasard curieux, il était assis à la même place. Il songea d'abord à détourner la tête afin de n'être pas reconnu, puis se dit qu'après tout, bien fin qu'il pourrait voir quoi que ce soit d'extraordinaire à ce qu'un consommateur de la nuit revint le lendemain. Personne ne faisait attention à lui. La caissière rangeait ses petits plateaux de sucre, les garçons mettaient le couvert et le patron, assis au poids du poêle, lisait tranquillement les journaux. Il acheva donc son récit, répondit de la meilleure grâce du monde aux questions supplémentaires qu'on lui posa, avec la double satisfaction de permettre à des confrères de rédiger leurs papiers sans fatigue et de garder pour lui le bénéfice de son reportage sensationnel. Ils sortirent enfin. Les uns montèrent en voiture, le journaliste méridional se hâta vers le métro. Quant à lui, prétextant des courses à faire dans le quartier, il s'en alla à pied, tout doucement, heureux d'être enfin seul, libre de penser, sans avoir la préoccupation constante de l'attitude à conserver et des mots à ne pas dire. Il déjeuna dans un restaurant de cocher, parcourut des journaux, revint vers le boulevard Lannes, gagna les fortifications, pris d'un besoin d'activité physique, énervé par la solitude et par une crainte vague dont il ne démêla pas très exactement d'abord la raison. Il s'irrita, songeant que les vrais meurtriers, ceux dont on ne s'occupait guère, étaient peut-être plus tranquilles que lui en ce moment. Il marcha sur la route, prit les petits chemins glissants de la zone militaire, dévisageant les hommes et les femmes qui passaient, et soudain il sentit pour tous ces êtres aux faces sinistres, aux vêtements déchirés, une espèce de commisération attendrie, l'indulgence fraternelle que fait naître dans le cœur des hommes le sentiment des joies ou des fautes partagées. Il ne se rendait pas très exactement compte de ce qu'il était lui-même. Le déguisement moral qu'il avait pris le gênait à peine. Il était à ce point résolu à détourner sur lui tous les soupçons qu'il se sentait presque coupable. Et ne l'était-il pas en effet? Sans lui, qui sait, on serait déjà sur les traces de l'assassin. Et s'il avait parlé... Dans la chambre sinistre, il avait été sur le point de raconter sa rencontre, sa visite mystérieuse, et puis, Réfléchissant à tout ce qu'il perdrait ainsi, il s'était tu. Maintenant, il sentait quelque chose de formidable peser sur lui. Ne s'était-il pas fait en quelque sorte le complice des assassins? Un jour, demain peut-être, il lui faudrait répondre devant les juges de tout cela. Mais aussi, quel succès de journaliste, quelle enquête, quelles pages cinglantes à écrire! Les seuls crimes qui fussent capables de bouleverser sa conscience étaient des crimes contre les hommes, le crime contre les institutions et les lois, lesquelles ne sont en somme que la codification des préjugés, le laissaient indifférent. Condamné à une amende ou à quelques jours de prison pour s'être moqué de la justice, il ne s'en estimerait pas moins, et il serait toujours temps alors de dire ce qu'il avait vu, ce qu'il savait, puisqu'aussi bien il n'avait pas la moindre part de responsabilité dans la mort du pauvre vieux, et qu'à l'heure où il était entré dans la chambre, tout était fini. Restait la vindicte publique, mais qui sait? Si pour l'avoir cette fois retardé, il n'allait pas lui donner une de ces leçons profitables qui font les hommes réfléchis, les lois plus sages et les administrations plus intelligentes. À la nuit close, il se décida à rentrer chez lui. Le concierge, en l'apercevant, lui dit qu'on était venu deux fois du monde et qu'un monsieur, qui n'avait pas voulu laisser son nom, l'avait demandé. Il demanda des détails et ne se souvint pas à qui pouvait correspondre le signalement du visiteur. En toute autre occasion, il se fut contenté de penser « Bon, il reviendra ». Mais il se borna cette fois à le dire et s'énerva à chercher. Comme 7 heures sonnaient, il ne prit pas le temps de monter jusqu'à son logement et descendit au journal. On l'y attendait avec impatience. Dès qu'il l'aperçut, le secrétaire de la rédaction se répandit en questions et en reproches. Depuis 24 heures, son attitude était vraiment extraordinaire. On ne le voyait plus. Il fallait courir après lui aux quatre coins de Paris. La veille, à l'heure du coup de téléphone, il avait été introuvable. Aujourd'hui, où l'on attendait son papier avec fièvre, il disparaissait depuis 8 heures du matin. Il faisait perdre au monde le bénéfice de son information sensationnelle. À 7 heures, tous les journaux étaient aussi bien, sinon mieux informés que lui. Déjà, les feuilles du soir publiaient sur le crime du boulevard Lannes des articles documentés de 2 colonnes. Il brandit devant ses yeux le papier du Méridional. Voilà une interview du commissaire de police. Ne venez donc pas me dire qu'il n'y avait pas moyen de se renseigner. Ceci a été écrit au plus tard à 11 heures. À 11 heures, vous ne saviez rien. Qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, je vais téléphoner à ce garçon-là de venir et je le mettrai sur l'affaire. Coche laissa passer l'orage sans répondre, puis se décida à parler. Voulez-vous me permettre? Vous venez de dire que cet article a été écrit à 11 heures. Parfaitement, oui, 11 heures et demie au plus tard. Cet article a été écrit au plus tôt à 12h30, 1 heure moins le quart. Oh, une demi-heure près, cela n'a pas d'importance. Pardon, cela en a une très grande. Mais comment savez-vous si exactement à quelle heure votre confrère a rédigé son papier? Parce que je le lui ai dicté, comme je l'ai du reste dicté à 3 autres confrères de journaux du matin. Ça, par exemple, c'est plus fort que tout. Alors, l'interview du commissaire, c'est vous qui l'avez eue. Et pour faire le malin, pour jouer au bon camarade bénévolement, vous l'avez passé à d'autres. Mais toute la presse saura demain ce qui ne devait être qu'à nous, c'est trop fort. Bon, hélas, toute la presse ne l'aura pas, et je le regrette. Il n'y aura que 4 journaux, et ceux ne sont pas les plus importants. Écoutez, Coche, il est tout à fait inutile d'éterniser une discussion semblable. Vous ne me paraissez pas être dans votre état normal. D'autre part, Il ne m'est pas possible de compter sur un collaborateur aussi fantaisiste dans un cas aussi sérieux, alors que nous avons besoin d'une activité de tous les instants. L'histoire de l'interview que vous auriez eue et livrée est-elle fausse, est-elle vraie? Je ne veux pas le savoir. J'ai d'ailleurs pris depuis 24 heures toutes mes mesures. Vous pouvez passer à la caisse où l'on vous réglera 3 mois d'appointement. Nous n'avons plus besoin de vos services. Vous m'envoyez tout à fait ravi, monsieur Avio. Je me proposais justement de vous prévenir que je désirais reprendre ma liberté. Vous me la rendez sans que je la demande. Et vous y ajoutez une indemnité d'un trimestre. Je n'en pouvais espérer autant. Je ne me sens pas très bien, en effet. Je suis fatigué, nerveux. J'ai besoin de repos, de solitude. Plus tard, quand je serai remis, je reviendrai vous voir. Pour le moment, je vais partir. Je ne sais pas encore, mais l'air de Paris ne me vaut rien. Voilà une décision bien soudaine, fit le secrétaire de la rédaction. Hier, vous vous portiez à merveille. Aujourd'hui, vous vous sentez trop souffrant pour continuer à travailler. Oh, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas irrévocable. Il faut pas prendre la mouche et pour plastronner, répondre que vous aviez l'intention de nous quitter. Bon, oublions ce que je vous ai dit et ce que vous m'avez répondu, et montez vite à votre bureau, rédigez votre papier. Je vous connais assez pour être sûr que vous avez quelque chose à raconter, que vous êtes renseigné aussi bien, sinon mieux que n'importe qui. Alors, mon petit, voilà qui est entendu. Mais Coche hocha la tête. Non, 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 je pars. Il faut que je parte, il le faut. Est-ce que par hasard, vous nous lâcheriez pour entrer dans un autre journal au moment où nous sommes embarqués dans une affaire aussi sensationnelle? Si vous vouliez une augmentation, il fallait le dire. Je suis à Muo, je ne veux pas d'augmentation. Je n'entre pas dans un autre journal. Je désire simplement reprendre momentanément ou pour toujours, sur ce point, les seuls événements peuvent me fixer ma liberté. Et d'une voix qui tremblait un peu, il ajouta: Je vous donne ma parole d'honneur que je ne tenterai rien qui puisse porter atteinte aux intérêts du journal et qu'il ne faut voir dans ma résolution aucune des manœuvres que vous paraissez soupçonner. Quittons-nous, bons amis, voulez-vous? Ah, un mot encore. Comme j'ai besoin d'un grand repos, d'un isolement absolu, comme je veux vivre à l'écart de tous les bruits de Paris, des questions des indifférents ou de la sollicitude des amis, mais comme il me déplairait d'autre part que mon départ ressemblât à une fuite, gardez par-devers vous les lettres qui pourraient arriver ici à mon nom. Ne les laissez pas dans ma case. On s'étonnerait que je n'aie point donné d'instructions pour qu'elles me suivent. À mon retour, vous me remettrez tout cela. Votre décision est irrévocable. Irrévocable. Je ne vous demande pas, bien entendu, où vous allez, mais vous pouvez toujours me dire quand vous partez. Ce soir même. Et quand pensez-vous revenir? Coche esquissa un geste vague. Je ne sais pas. Puis, ayant serré la main au secrétaire de rédaction, il sortit. Dans la rue, perdu parmi les passants, se faufilant entre les fiacres, marchant vite, il poussa un soupir de soulagement. Quelques minutes lui avaient suffi pour établir tout son plan de bataille. En entrant au journal, il était agité, préoccupé. Depuis la veille, les événements s'étaient succédés avec une rapidité telle qu'il n'avait pas eu le temps de songer d'une façon définitive à l'attitude qu'il lui convenait de prendre. Son but était, sinon d'égarer la police, du moins de la faire hésiter, de l'attirer vers lui, sans effort apparent, et de l'occuper à ce point qu'elle finit par regarder de son côté, par voir en lui le coupable possible et en fin de compte par l'arrêter. Or, pour arriver à ce résultat, il avait besoin d'être libre, de n'être retenu par rien, de pouvoir, au gré de son caprice, modifier sa vie, ses habitudes, enfin de n'être attaché à personne. Collaborateur au monde, il ne pouvait pas publier ce qu'il savait sous sa signature. Et l'eût-il publié, ses phrases n'auraient pas eu d'autre valeur qu'une opinion de journaliste. Enfin, était-il logique qu'un homme se fît l'historien d'un meurtre dont il devait être accusé? De plus, une pareille épreuve ne pouvait avoir une durée indéfinie. Lancée sur une fausse piste, la police pouvait fort bien s'entêter, ne rien trouver et finalement classer l'affaire. Alors, à moins d'en arriver à la dénonciation anonyme et précise, lui, Coche, ne serait pas inquiété, et cela, il ne le voulait à aucun prix. Il hésita sur le point de savoir s'il rentrerait chez lui et décida de ne plus reparaître dans sa maison. Il avait en poche 1 millier de francs, l'indemnité qu'il avait touchée au monde. C'était plus qu'il ne lui en fallait pour vivre pendant quelques semaines. Son existence serait du reste peu coûteuse. Une chambre dans un quartier éloigné, des repas dans de petits restaurants, quant aux sorties, elle se réduirait forcément au minimum. De ce côté-là, il se trouvait parfaitement tranquille. Son départ précipité prendrait, le jour où les soupçons se dirigeraient sur lui, l'aspect d'une fuite, et les déductions que l'on ne manquerait pas de tirer de cette coïncidence entre sa fuite et la découverte du crime donneraient une étrange force aux présomptions qu'on aurait contre lui. Vers 10 heures, il songea que le moment était venu de faire choix d'un gîte pour la nuit. Il pensa un instant à Montmartre. Quoi de plus simple que de passer inaperçu dans ce quartier vivant, grouillant, parmi les fêtards, les artistes et les individus louches qui s'y promènent nuit et jour. Mais de la place Blanche à la place Clichy, de la place Saint-Georges à la rue Caulaincourt, il risquait à chaque pas de rencontrer un camarade. La Villette et Belleville lui offraient l'abri de leur population remuante, mais la police y faisait des incursions trop fréquentes et sans être poltron. Il préférait un quartier où l'on jouât moins du couteau. Il se souvint du temps où, jeune journaliste, il avait voulu vivre la vie du quartier latin au milieu des étudiants qu'il imaginait pareils aux héros de Murger. Il avait eu, dans le haut de la rue Gay-Lussac, une pauvre chambre meublée d'un lit de fer, d'une table qui servait à la fois de toilette et de table à écrire, et de sa grosse malle de bois. Il ne lui déplaisait pas de se retrouver pour quelques jours dans ce coin de la capitale où, débutant, marchant à la conquête de Paris, il avait vécu des jours d'illusion et d'enthousiasme. Sans compter qu'au quartier ou dans les environs, il serait à la fois assez près du centre pour connaître tous les bruits et assez loin pour que l'idée ne vînt à personne de l'y chercher. Le boulevard Saint-Michel, rempli de lumière et de gaieté, l'amusa. Il entra dans un café près du Luxembourg et mangea un sandwich pour tromper sa faim. Ensuite, il parcourut les journaux du soir. Le temps, le grave temps lui-même, consacrait près de 200 lignes en sa dernière heure de quatrième page au crime du boulevard Lannes. À bien réfléchir, ce meurtre n'avait rien que de banal. Chaque jour à Paris, on en découvrait de semblables, et, sauf l'été où les journaux à court de nouvelles se rattrapent sur ce qu'ils peuvent, on leur consacrait quelques lignes en mauvaise place avec un titre très modeste, et tout était dit. Or, par un phénomène bizarre, ce crime du boulevard Lannes prenait dès le premier jour l'allure d'une affaire sensationnelle. On eût dit qu'un instinct extraordinaire avait averti les gens qu'il cachait quelque chose de neuf, d'imprévu. Et par une coïncidence plus surprenante encore, Les événements s'étaient présentés d'une façon telle que Koch n'aurait pas osé les souhaiter aussi favorables à ses projets, et qu'il allait pouvoir, invisible et présent, les suivre, les critiquer et presque les modifier à sa guise. Il lut avec la plus grande attention les articles reproduisant son interview du commissaire et sourit, retrouvant ses propres phrases, des réflexions qu'il avait faites et des questions qu'il avait posées. « Demain, se dit-il, j'entrerai en campagne. » Sa consommation achevée, il sortit, remonta la rue Saint-Jacques et arrêta une chambre dans un hôtel. De sa fenêtre, il voyait la rue et la grande cour du Val-de-Grâce avec son admirable chapelle et son grand escalier. Il demeura quelques instants, le front appuyé à la vitre, repris par mille souvenirs d'autrefois, regrettant presque son audace et la tranquillité monotone qu'il goûtait depuis des mois. Il se souvint d'avoir fait des réflexions analogues un jour au moment de commencer une conférence qu'il n'avait pas préparée. En s'asseyant devant la table au tapis vert, il s'était dit, comme aujourd'hui, oh, « Quelle idée tu as eue de te lancer là-dedans! Mais quel besoin de te créer ces petites angoisses! À 7 heures, tu pourrais être paisiblement chez toi, au lieu d'affronter le public, la critique. » Mais bientôt, il rejeta loin de lui cette pensée amollissante. Il laissa tomber le rideau, quitta la fenêtre, et s'assit près du feu dont la flamme faisait danser le long des murs des lumières et des ombres. Les jambes allongées, gagnées par la tiédeur du foyer et la douceur de toutes choses, libre, inconnu dans ce quartier de Paris où il avait jadis vécu, il pensa non plus en rêveur, mais avec calme, avec méthode. Il refit pour lui seul l'histoire des 24 heures qui venaient de s'écouler, relut les notes qu'il avait prises à la hâte, déchira les papiers qu'il avait dans ses poches et les jeta au feu. Après quoi, il se dévêtit, se mit au lit, et bien au chaud, déjà gagné par le sommeil, songea. Lequel dormira mieux cette nuit? Du coupable qui n'a rien à craindre provisoirement de la police, ou de l'innocent qui souhaite tout en redouter? Chapitre 5. Quelques points de détail. Lorsque Koch s'éveilla, il faisait grand jour, ce grand jour d'hiver qui semble traîner avec lui encore un peu de crépuscule. Il s'habilla rapidement, pressé de lire les journaux. Comme il passait devant le bureau de l'hôtel, le gérant l'appela. « C'est pour la petite formalité du registre de police. » Le seul mot de police le fit tressaillir. Pourtant, il répondit du ton le plus naturel. « Le registre de police, quoi donc ?» Ben, nous sommes obligés de tenir exactement un livre où nous notons le nom, la profession, la date d'entrée des voyageurs. Bien souvent, la précaution est inutile, surtout dans une maison calme comme la nôtre, mais est-ce qu'on sait jamais, avec tous ces attentats, tous ces crimes? Voyez, le crime du boulevard Lannes. Du coup, Koch sentit devenir pâle. Il regarda l'homme fixement, les lèvres entrouvertes, pour interroger l'imprudent, presque pour protester. Mais l'homme se pencha, fouilla dans un casier, relevant la tête après avoir déposé le registre grand ouvert sur son bureau, montra une figure souriante qui rassura tout aussitôt le journaliste. Il indiqua du doigt une ligne où était déjà inscrite une date. « C'est ici, monsieur, vous n'avez qu'à remplir votre nom, votre profession et l'endroit d'où vous venez. » Et pendant que Koch écrivait, il ajouta, poursuivant les détails qu'il avait donnés tout d'abord, « Oh, chez nous, rive gauche, ce n'est pas tant rapport aux malfaiteurs que la préfecture se montre stricte. Que rapport aux crimes politiques, aux réfugiés russes, aux nihilistes. Nous en sommes infestés. C'est pas agréable de loger les gens qui se promènent avec des bombes et risquent de faire sauter toute la maison. Évidemment, fit Coolish en lui rendant son porte-plume. Et il songea, si avec ce bavard imbécile je ne suis pas pisté avant 48 heures, c'est que j'aurai le diable contre moi. Il sortit. Le gérant l'arrêta encore. Pour entrer le soir, vous n'avez qu'à sonner 3 fois. Votre clé sera accrochée sous votre bougeoir. Merci, répondit Coche. Sans savoir pourquoi, il resta quelques secondes sur le pas de la porte, regardant à droite et à gauche, dans la rue, avec cette hésitation curieuse des gens qui n'attendent rien et ne bougent pas cependant pour se donner une contenance. L'homme s'étant remis à sa table, parcourut son registre et lut Farcy, rentier, venant de Versailles. Il leva les yeux, examina la silhouette de son voyageur et murmura, toi, tu es rentier comme moi, mon bonhomme, je m'y connais en figure. Mais comme Coche, rendu plus nerveux par tous les événements de la veille, se détournait, gêné par ce regard qu'il sentait peser sur lui, il lui adressa son plus engageant sourire et, poursuivant sa réflexion, ajouta: Ouf, ça m'est du reste totalement indifférent pourvu qu'il paye régulièrement. Réflexion qui en fut naître une autre dans son esprit. Ce voyageur était arrivé sans bagage. Rien ne garantissait donc son retour. Coche avait fait un pas, il le rappela. Monsieur Farcy, monsieur Farcy. Monsieur Farcy ne venant pas, il courut jusqu'à la porte et appela de nouveau. Monsieur Farcy, monsieur. Coche avait fort bien entendu le premier appel, mais n'y avait pas prêté la moindre attention. Ce nom de Farcy qu'il avait inscrit au hasard quelques minutes avant lui était à ce point étranger que ce fut seulement en l'entendant crier avec insistance qu'il se souvint que c'était son nom. Une réelle gêne l'avait d'ailleurs envahi depuis qu'il avait quitté sa chambre, depuis que, sans aucune intention évidemment, l'hôtelier avait parlé du crime du boulevard Lannes. Il se retourna donc d'assez méchante humeur. Qu'est-ce que c'est encore? Monsieur, il est d'usage, j'avais oublié de vous le dire, de payer la location d'avance pour la première semaine, tout au moins. Ah, c'est trop juste, répondit Coche en revenant sur ses pas. Il paya donc, décidé à ne pas coucher là le soir. On ne manquerait pas dans la suite de voir là un indice, sinon de sa culpabilité, du moins de son désir de n'être pas reconnu. En même temps, et par une contradiction bizarre, il éprouva plus intense encore que la veille une sensation de malaise. À peine s'il avait endossé depuis quelques heures la défroque de son nouveau personnage, et déjà il en était oppressé. Il sentait remuer autour de lui une foule de choses imprécises. Il devinait la mise en marche, hésitante d'abord, puis brutale, de cette machine énorme, maladroite parfois, redoutable toujours, qui a nom la justice. Il était un peu comme un oiseau qui verrait tomber sur lui lentement de très haut un filet gigantesque dont les mailles se resserreraient à tout instant et qui pourrait comprendre que c'est le piège inévitable destiné à tomber finalement sur lui. Il réfléchit qu'en dehors de la scène terrible de la nuit, il n'avait rien fait et que le temps passait, qu'il était nécessaire d'agir et qu'il ne devait pas, s'étant engagé délibérément dans cette voie, attendre tout du hasard. Il n'ignorerait point les erreurs des enquêtes de police, mais il n'allait pas jusqu'à les croire, si certain qu'il eût qu'à les attendre patiemment. Son départ du monde pouvait servir de base à un vague soupçon. Il importait de préciser sa culpabilité apparente. Il lut, tout en marchant, plusieurs journaux. Tous étaient remplis de détails, futiles ou faux, sur le crime. Déjà, quelques-uns annonçaient que la police tenait une piste sérieuse. Cela le fit sourire. Au Monde, un nommé Béju, la veille encore chargé de la Chambre des députés, avait pris sa succession. Sans doute, s'autorisant de l'information sensationnelle parue dans le journal, il avait revu le commissaire de police, car il précisait avec une autorité où l'on devinait le renseignement puisé à bonne source. Quand il eut fini sa lecture, Coche replia les journaux et les mit dans la poche de son pardessus. Ainsi, pensa-t-il, il a suffi de deux ou trois meubles déplacés, de ma mise en scène maladroite pour tout fausser. Ainsi, la police, qui est payée pour avoir du flair, se laisse prendre au premier appôt placé sur son passage. Ainsi, à côté de tout ce qui aurait dû avoir un poids réel dans la balance, à côté de la disparition de l'argenterie, à côté de la position même du cadavre qui indiquait avec une effrayante netteté que le crime a été commis au moins par deux hommes, on a vu que mon pauvre bouton de manchette, et là-dessus on a bâti tout un roman. Et il ne se trouve pas dans la presse un seul homme capable de démêler ce qu'il y a d'arbitraire, d'absurde dans les déductions de la police. J'ai vraiment la partie belle. Ensuite, il se demanda, que font les vrais coupables en ce moment? Ils ont probablement trouvé un receleur pour écouter les objets volés. Puis ils ont quitté leur gîte habituel, roulant d'auberge en cabaret louche. Cette première réflexion lui en suggéra une nouvelle. Le vin rend bavard les plus prudents. Les escarpes, les assassins ont un orgueil du crime qui les pousse à parler sans mesure de leurs méfaits. Pour peu que je tarde, qui sait si les miens n'auront pas commis la bêtise inévitable avant que j'aie attiré l'attention de mon côté. Il n'y a pas une minute à perdre. Il déjeuna rapidement et se retrouva dans la rue vers 1 heure. Jusqu'à 4 heures, rien à faire. Tous les journaux, sauf ceux du soir, somnolent dans l'après-midi. Avyot n'arrivait au Monde que vers 5 heures. D'ici là, il fallait tuer le temps. Jamais les heures de la journée ne lui avaient paru aussi longues. Il entra dans un café, commanda une consommation qu'il ne but pas, sortit de nouveau, rôda à l'aventure, attendant la nuit. Enfin, des lumières s'allumèrent à la devanture des magasins. Le crépuscule arriva, puis la petite obscurité et la grande nuit. Il était dans le quartier de l'école militaire. Là, du moins, il était sûr de ne rencontrer personne. Depuis qu'il s'y promenait, il éprouvait la sensation d'être dans une autre ville. Il entendit sonner 5 heures. À partir de maintenant, tous ses actes devaient être réglés, coordonnés, en vue du but à atteindre, c'est-à-dire de sa propre arrestation. Se dénoncer lui-même, oh, il n'y songea pas un instant. Il voulait montrer la routine de la police, son manque de clairvoyance. Il importait donc que son arrestation vînt d'elle. Ainsi, il indiquerait clairement avec quelle légèreté on se lance sur une piste, avec quelle ténacité irréfléchie on la suit, et surtout avec quel entêtement on y reste attaché contre toute évidence. Le triomphe serait de donner du crime la version exacte et de voir comment ces indications seraient négligées. Il pénétra donc dans un bureau de poste et demanda une communication téléphonique avec le Monde. Ainsi qu'il l'avait fait dans le petit café de la place du Trocadéro, il changea sa voix et pria qu'on le mît en rapport avec le secrétaire de la rédaction pour communication urgente. Il ne laissa pas à Arbiot le temps de l'interroger et lui dit: Monsieur, je suis votre correspondant de la nuit dernière. C'est moi qui vous ai annoncé le crime du boulevard Lannes. Vous en avez eu la preuve bien informée, et je viens vous apporter quelques nouveaux détails. Je vous remercie, mais je désirerais savoir à qui vous parlez. Oh, voilà qui est parfaitement inutile. Mes renseignements sont bons, je vous les donne pour rien, comme vous pouvez vous souhaiter de plus. Vous ne saurez rien de moi, jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, si cela vous va pas, je peux m'adresser ailleurs. Non, faites rien, protesta Viou. Je vous écoute. Sachez donc alors que la police fait fausse route, que rien n'est vrai de tout ce qui a été publié depuis 2 jours. Il ne faut pas signer au crime de motif obscur. C'est un meurtre banal dont le seul mobile fut le vol. Quant aux déductions du commissaire de police, pure œuvre d'imagination. Menez votre enquête vous-même si vous voulez découvrir la vérité. Dites surtout à votre rédacteur de ne pas se laisser aller à raconter tout ce qu'on lui dit. Mais encore une fois, monsieur, ne m'interrompez pas. Peut-être ai-je de graves raisons pour vous dévoiler des choses que je suis seul à connaître. Conseillez à la justice d'abandonner la piste qu'elle suit. Affirmez maintenant, malgré toutes les apparences, toutes les rectifications possibles, que les coupables... Vous dites les coupables. Vous avez bien entendu. Demandez dans votre article si on est sûr de n'avoir relevé dans le jardin aucune trace de pas. Allez, je vous en ai dit assez aujourd'hui. Pour le reste, je demeurerai en relation avec vous. Suivant que les événements prendront telle ou telle tournure, je vous donnerai de nouveaux détails. Un mot encore. Ne parlez à personne de votre correspondant mystérieux, et sur ce, monsieur, et bien l'honneur. Coche raccrocha le récepteur et se dirigea vers la porte. Lorsque le commissaire de police lut le lendemain l'article du Monde, il commença par sourire. Mais en arrivant aux dernières lignes, il fronça les sourcils et jeta le journal avec colère. Malgré sa promesse, le reporter avait parlé des traces de pas. On n'y faisait encore qu'une faible allusion, mais il sentait bien que c'était là un ballon d'essai et qu'on préciserait le lendemain. Pour que Coche ne parlât point de ce détail, il l'avait traité presque en ami, il lui avait permis de voir ce qu'aucun autre journaliste n'avait vu, et voilà sa récompense. Ce n'était point assez que le Monde eût donné la nouvelle du crime avant que lui en eût été informé, il fallait encore qu'il fournît des armes à ceux qui sont toujours prêts à dénigrer la police. Certes, on n'attacherait que peu d'importance à cet article rempli d'invraisemblances. Certes, il était sûr de tenir la bonne piste, et le succès final lui donnerait raison. Mais n'était-il pas étrange en vérité que le journal en faveur duquel il avait fait quelque chose d'irrégulier fut le premier à discuter son enquête à la discréditer? Décidément, se dit-il, ces gens-là sont tous atteints de la manie des grandeurs. Parce que le hasard leur a permis de donner une information sensationnelle, ils se croient tout permis. Ils mènent une instruction parallèle à la mienne. Au fond, n'était-ce cette histoire des traces qui peut m'obliger à des applications? Cet article ne peut que faciliter ma tâche. Que le coupable s'imagine qu'on cherche d'un côté opposé à celui où il se trouve, il commettra des imprudences. Il se cachera moins et se livrera tout seul. Oh, c'est égal, la leçon me profitera. Il entra dans le bureau du secrétaire et le journal à la main lui dit « Vous avez lu ?»«
Oui, monsieur le commissaire. »
« Votre avis ?»« Oh, il faudrait peut-être voir ce coche, quitte à ne lui dire que ce que vous voulez prendre. Avec un ou deux petits renseignements à côté que nous ne donnerons pas aux autres, il sera content. » « Mais que pensez-vous de son hypothèse qui est diamétralement opposée à la mienne ?»« Oh, je pense qu'elle vaut ce que vaut une hypothèse de journaliste. Les renseignements qui nous arrivent depuis 48 heures n'ont rien apporté, il est vrai, à la pluie de la nôtre, mais ils ne donnent rien à la pluie de la sienne. Le commissaire demeura un moment silencieux, puis murmura: Ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est moi qui ai raison. Donnez un coup de téléphone au monde et priez qu'on m'envoie ce monsieur Koch aussitôt qu'il viendra. Je vais retourner boulevard Lannes, j'y fixerai quelques points de détail, de façon à ce que le juge d'instruction trouve l'affaire toute prête. La maison était restée exactement dans l'état où le commissaire l'avait laissée l'avant-veille, à ceci près que le corps de la victime, après qu'on eût repéré exactement sa position, avait été transporté à la morgue. La chambre avait maintenant un aspect sinistre. Rien ne donne à une pièce un air plus lugubre, plus désolé qu'un lit défait aux draps froissés et refroidis. À l'odeur fade du sang avait succédé une odeur de suie et de fumée caractéristique des demeures abandonnées. Dans la cheminée, les cendres tassées avaient pris une teinte plus sombre. Dans la cuvette, l'eau rosée avait changé de couleur, laissant voir par transparence de minuscules grumeaux rouges, et sur les bords, une raie grise d'un gris indécis, empâtée par du savon et du sang. Lorsque le magistrat avait pénétré la première fois dans le petit hôtel, un peu de vie semblait flotter encore entre les murs. On dirait parfois que l'être humain laisse derrière lui un reflet de sa personnalité, de son existence, comme si les murs, à force d'être les témoins muets de notre vie, en conservaient la trace quelque temps. L'histoire des hommes continue après eux dans la demeure qu'ils ont habitée. La chambre où des êtres ont aimé, souffert, est un témoin mystérieux et pourtant indiscret pour ceux qui savent regarder, réfléchir. Certains appartements, pauvres ou luxueux, tristes ou gais, sont hostiles aux visiteurs qui viennent pour les louer. Et qu'y aurait-il d'invraisemblable en vérité à ce que les objets eussent une vie profonde, insoupçonnée? N'est-ce pas le passage rapide des eaux d'une nuit ou d'un jour qui donne aux chambres d'hôtel cet aspect banal, impersonnel? Les meubles, cependant, ils sont parfois semblables à ceux qui ornent le foyer regretté. Le lit de palissandre, l'armoire à glace, la toilette commode avec sa garniture à fleurs, les rideaux à ramages, la descente de lit ornée d'un lion couché dans la verdure, la cheminée avec sa pendule dorée et ses candélabres de marbre, la petite étagère avec ses bibelots en imitation de Saxe et la couronne de fleurs d'oranger sous un globe, tout cela ne forme-t-il pas le mobilier que l'on retrouve dans les vieilles maisons de province? D'où vient alors que dans les vieilles maisons, les choses sont accueillantes et gaies, sinon de ce qu'elles ont pris au contact des êtres, une vie mystérieuse qui peu à peu s'affaiblit, se fane, s'attriste et disparaît quand disparaît ce qui la leur prêtait un moment. Alors le parfum qui dormait en elles s'évanouit, leur charme vieillot se flétrit et meurt. Les objets sont pareils aux gens, ils oublient. Ainsi, en quelques heures, la chambre du crime, vide, sinistre, morte, avait oublié son hôte. Il fait froid ici, murmura le commissaire. Puis il se mit à marcher lentement, examinant les murs, les meubles et tous les coins où l'ombre semblait se complaire. Il s'arrêta un instant près de la toilette, joua du bout du doigt avec une règle posée sur la table, inspecta la pendule renversée, arrêtée à 12h35. Rien n'est effrayant, énigmatique autant qu'une horloge. Cette machine sortie des mains des hommes et qui marque le temps règle notre vie et court toujours du même pas égal vers l'avenir impénétrable et semble être auprès de nous un espion placé comme le destin. Quelle heure marquait celle-ci? Heure du jour ou de la nuit? Midi, avec sa lumière immense et joyeuse, minuit, silencieuse et noire, s'était-elle arrêtée ainsi, simplement par hasard, ou bien à la minute même qui avait précédé le crime? Impassible témoin, avait-elle battu la dernière seconde de l'homme assassiné? Il faudra faire venir un horloger expert, dit le commissaire. Il nous renseignera peut-être sur la raison pour laquelle cette pendule est arrêtée. Il sera intéressant de savoir si c'est la chute qui a détraqué le mouvement. Pardon, monsieur, fit un inspecteur en ramassant quelques fragments du papier déchiré. Voilà qui me paraît drôle. Nous ne l'avions pas vu la première fois. Le commissaire prit les trois petits carrés blancs et lut « Monsieur 22 EV EZ UE ». Il haussa les épaules. « Oh, ce n'est rien du tout, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que vous voulez tirer de quelques syllabes incomplètes? Laissez donc. Possible que ce soit pas grand-chose, mais qui sait? Si on trouvait ce qui manque en y regardant bien... Ça me fait l'effet d'un bout d'enveloppe. En les rangeant dans l'ordre, on trouverait quelque chose comme un semblant d'adresse. Monsieur 22 rue de EV. Il reste Easy, qui fait peut-être partie du nom de la rue, peut-être du nom du destinataire. Nous pouvons toujours être sûrs que le particulier demeure au numéro 22 d'une rue de... Ça facilite déjà les recherches. Belle avance, dit en riant le commissaire. L'inspecteur entêté tournait et retournait les papiers, flairant leur odeur, les regardant par transparence. Tout à coup, il s'écria « Ah, mais voilà ce qui est mieux. Lisez donc. » Nous n'avons examiné jusqu'ici que le recto, mais voyez la pliure, le papier est double. Il a un verso, le dos de l'enveloppe. Et qu'est-ce que je trouve sur l'un, inconnu au 22, et sur l'autre, voire au 16. Et tout à côté, la moitié du timbre de la poste. Avec écrit rue B, B A Y, ce qui veut sûrement dire rue Bayen. Ça, c'est pas difficile. Mais dans le demi-rond du timbre, quelque chose de noir qui devrait être la date et au-dessous très net 08. Nous sommes en janvier, donc cette adresse n'avait pas été écrite depuis longtemps. Je ne sors pas de là. Vous ferez comme vous voudrez, monsieur le commissaire, mais je crois qu'il serait utile de trouver le monsieur inconnu de la rue de... je ne sais pas quoi, qui demeurait sans doute au 16 d'une autre rue de la même, peut-être. Bon, cherchez toujours. Moi, je donnerai tout ce que vous décrirez là pour quelques renseignements sur la vie et les fréquentations de la victime. Vous ne trouvez plus rien, alors nous pouvons partir. Et le commissaire sortit avec ses inspecteurs. Il y avait toujours des curieux sur le boulevard, des agents faisant les 100 pas devant la grille. Un photographe avait braqué son appareil sur la maison et la photographiait sur toutes ses faces. Au moment où le commissaire allait monter en voiture, il lui dit vivement « Une seconde, monsieur le commissaire, là, merci. » Ah, ça vous fait bien plaisir d'avoir mon portrait. Vous croyez que ça amusera vos lecteurs? C'est pour quel journal? Pour Le Monde, qui le premier... Eh bien, fit le commissaire rageur, vous pourrez lire chez vous. Au fait, ne dites donc rien du tout.